Le paddock RMC, Jean-Luc Roy.
Et salut à tous. Réputé pour être souvent le théâtre de courses soporifiques, le tourniquet hongrois, j'allais pas le louper, celle-là nous a cette fois réservé un scénario mouvementé et inattendu. Pour analyser, décortiquer, tenter d'expliquer toutes ces péripéties avec moi, il faudra bien la connaissance et la vista de Louis Gerbier. Salut Louis.
Salut Jean-Luc, salut Paul.
Mais aussi la perspicacité de Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut messieurs, ravi de vous retrouver.
Mais moi aussi, avec Arthur Robert et Julie Deroux en régie. Alors on sentait bien qu'elle surviendrait cette première victoire d'Oscar Piastri, le jeune Australien de 23 ans qui avait déjà terminé deuxième à Monaco et en Autriche. Toujours très proche de son équipier référence Lando Norris, il a réalisé un départ parfait en Hongrie puis mené la course avec autorité avant qu'une stratégie pour le moins étonnante de McLaren vienne perturber l'ordre établi. Nous allons tenter de tout vous expliquer. En tout cas, un superbe doublé de McLaren, le premier depuis plusieurs saisons, qui permet à l'écurie britannique de s'emparer de la deuxième place au classement constructeur au détriment de la Scuderia Ferrari. L'opposition est venue de Max Verstappen, on s'y attendait, mais la Red Bull marque vraiment le pas, et cette fois l'écurie de pilote ont commis quelques erreurs sanctionnées par une cinquième place. Galvanisé par sa victoire à Silverstone, on retrouve un solide Hamilton sur le 200e podium de sa carrière, le 3e de la saison. Du côté des rouges, Charles Leclerc termine au pied du podium après être parti 6e et Carlos Sainz sur le chemin inverse en finissant 6e, donc parti 4e, fini 6e, mais à une vingtaine de secondes du vainqueur quand même. On a sauvé les meubles du côté de Perez et de Russell après des qualifications ratées, et Tsunoda termine également dans les points pour la 7e fois en 13 Grands Prix. Stroll sauve Aston Martin du naufrage auquel Alpine n'a malheureusement pas échappé après avoir sombré tout le week-end. On passe aux résultats et on lance le débat avec Paul et Louis. Merci d'être avec nous dans ce paddock RMC. Et comme je vous ai quasiment donné le classement du Grand Prix, et ben vous allez y échapper. Vous avez qu'à vous en souvenir. Je vais vous donner quand même le classement du championnat.
Il est en forme, le Jean-Luc Colombo.
Ah bah écoute, oui, on a mis des piles neuves, alors tu vois. Alors, Max Verstappen, évidemment, reste leader avec 265 points. Lando Norris, plus que jamais deuxième avec 189. Charles Leclerc à 162. Carlos Sainz, 154. Oscar Piastri, évidemment, le vainqueur du jour, remonte à 149, donc pas très loin de Carlos Sainz. Ensuite, on a Lewis Hamilton, qui fait également une très belle opération, 125 points. Il devance Sergio Perez, ça commence à devenir grave, 124. En 7e position, et puis George Russell 116 points en 8e, Alonso 9e et Stroll 10e. Je ne vous donne pas le reste du classement. Voilà, on est parti. Alors, on va commencer évidemment. Monsieur Louis, tu vas nous parler de cette victoire d'Oscar Piastri. Bon, on ne va pas dire qu'on était des grands devins, mais on l'avait un peu annoncé dans le paddock RMC et ailleurs.
Bah, on attendait ça pour cette saison. C'est arrivé hier d'une manière, on va en parler, un peu spéciale. Je pense que, je ne sais pas, j'aimerais savoir au fond de lui comment il l'a ressenti. Est-ce qu'il était aussi heureux qu'il aurait pu l'être s'il avait tout fait sur la piste, quoi, tout simplement. Moi, j'ai trouvé la gestion de McLaren très mauvaise hier.
C'est ce que j'appelle un euphémisme.
Oui, et très mauvaise, et surtout plus particulièrement, le grand monsieur de l'histoire, c'est Lando Norris qui a su les écouter tout en leur disant bon, les gars, c'est quand même pas fou, parce que c'est leur décision de l'undercut qui fait passer Oscar premier. Mais le poleman de ce Grand Prix, il faut le rappeler, c'est Lando Norris. Le leader de l'équipe, c'est Lando Norris, et le leader des deux au championnat, c'est Lando Norris. Donc moi, à sa place, dans le baquet, j'aurais dit mais pour quelle raison je dois laisser passer mon coéquipier qui n'arrive pas à revenir à moins de 6 secondes. Donc pour moi, pour toutes ces raisons-là, j'aurais même dit à Lando, mais vas-y, va la gagner, t'es devant. Et j'ai même trouvé le message qu'on pourrait presque qualifier de menaçant. Menaçant, c'est un peu fort, mais le moment où ils disent « Lando, tu auras besoin de ton équipe et d'un coéquipier pour gagner un championnat un jour », oui, mais enfin, l'undercut, c'est vous qui l'avez fait. Hein. Lando, lui, il a pas choisi d'être 1-2-1-2. Il était en pôle, il est 6 secondes devant. Il n'y aurait pas eu de scandale à ce qu'il le gagne. Et je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais montré un peu plus de mécontentement pourquoi pas en le laissant passer dans le dernier virage.
Oh, il l'a fait ostensiblement quand même.
Il l'a fait ostensiblement.
Le pénultième tour.
Mais voilà, mais il est resté quand même, il n'a pas dépassé les bornes, alors que je pense que d'autres sur la grille à qui on aurait fait vivre la même chose, je pense par exemple à d'autres comme Max Verstappen par exemple, ils ne l'auraient pas fait, ils auraient gagné la course, multi-20 Watt Seb, enfin bref, on en a vu d'autres. Donc à ce niveau-là, c'est clair que moi je dis, ouais, grosse erreur de McLaren, ce qui est bête en plus. plus quand tu fais un double, le premier doublé depuis 3 ans. C'est génial et tout, c'est une super course. Et en fait, on va parler que de ça. C'est un peu de ça, c'est un peu dommage.
Ton analyse sur la question, Paul, évidemment, c'est vrai que ça ternit un peu, comme l'évoquait Louis, malgré tout, cette magnifique première victoire d'Oscar.
Oui, évidemment. Alors, c'est vrai que le week-end a quand même été parfait, hein, comme Louis le précisait, comme tu le disais dans le sommaire, avec une pole position, les deux McLaren en première ligne, un et deux à l'arrivée. À mon sens, la seule grosse erreur de Lando Norris, qui a quand même été parfait sur le week-end, c'est de ne pas avoir été plus rapide à laisser passer Oscar Piastri, car il l'a laissé passer à deux tours de l'arrivée. S'il l'avait laissé passer lorsque le commandement de McLaren lui a demandé une première fois, c'était, je crois, à 15 tours de l'arrivée, de le laisser passer, à ce moment-là, peut-être que les deux pilotes aurait pu de nouveau se battre sur la piste. Et comme le rappelait Louis, à ce moment-là, quand même, Lando Norris semblait quand même aller beaucoup plus vite que Oscar Piastri. En tout cas, c'est encore une fois dans le muret, sur le muret des stands que la victoire s'est jouée. Ouais. On pense à Red Bull, on peut aussi penser à Ferrari à Singapour il y a quelques années avec Vettel et Charles Leclerc. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, il y a quand même un beau Vaincourt qui tournait autour quand même, on le disait depuis quand même pas mal de temps, entre l'Autriche, Monaco. Et bien cette fois-ci, sur la première marche du podium, on retrouve ce jeune pilote talentueux qui était quand même dans l'écurie Alpine il n'y a pas si longtemps. J'espère que les Français le regretteront, car c'est un super pilote et encore une fois la meilleure des Formule 1 à gagner ce week-end, avec peut-être l'un des futurs grands de ce championnat.
Ah oui, on savait que c'était un vainqueur de Grand Prix en puissance. Est-ce un champion du monde ? L'avenir nous le dira. En tout cas, on va l'écouter, Oscar Piastri, au micro du diffuseur, après cette première victoire de sa carrière de pilote de Formule 1.
Je me suis mis dans une bonne position au début de la course. J'ai eu un petit moment au milieu sur le relais qui était plus dur, mais à la fin, nous avons adopté différentes stratégies en essayant de courir différentes personnes. Avec l'undercut, je trouvais ça juste de me laisser passer. Mon rythme n'était pas aussi bon que je l'aurais espéré, mais c'est une journée incroyable pour toute l'équipe. Il y a encore quelque chose à améliorer et à travailler, mais je sens que j'ai fait beaucoup de choses bien dans cette course. Je suis extrêmement heureux d'avoir ma première victoire.
Et il est mesuré dans ses propos. Hein. Il est sympa, hein, ce Oscar Piastri. Ah oui. Il reste presque froid, je dirais. Moi, j'aurais aimé un peu plus d'enthousiasme, un peu plus, mais peut-être les circonstances. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite l'explication de Lando Norris, justement, qui était en tête, qui avait signé la pole, comme vous le rappeliez tous les deux. Et la situation était délicate. Ça a dû vraiment bouillir sous le casque du jeune pilote britannique.
It's tough, but...
C'est difficile, mais je sais ce qu'Oscar a fait pour moi dans le passé. Je pense que c'est un peu différent. On m'a dit de le laisser passer et je l'ai fait. C'est toujours difficile quand vous vous battez pour une victoire. Une victoire, ça signifie beaucoup pour moi et aussi pour lui. J'ai dû essayer de me mettre à sa place et de le comprendre de cette façon, parce que quand vous êtes juste, chaque pilote est égoïste et il faut l'être dans ce sport. Mais il ne faut pas que vous pensiez qu'à vos propres avantages, vous devez penser qu'aux bonnes choses. Je me suis mis à sa place et j'ai réalisé que je devais faire ce qui était juste.
Et pour résumer, je dirais qu'on a demandé à Lando Norris sur la piste, je ne sais pas si la formule vous va à tous les deux, mais de réparer quelque part les erreurs de la stratégie McLaren. Parce que je veux bien qu'on ait arrêté effectivement Norris en premier, soi-disant, pour couvrir un potentiel retour d'Hamilton. Mais bon, non, je crois qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Louis, enfin, c'est mon opinion, je ne sais pas si tu la partages.
Ah, moi, c'est mon point. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur et après, ils ont demandé à un pilote de ne pas gagner une course pour la réparer. C'est ça que je n'ai pas... trop aimé. Je repensais aussi en réfléchissant à ça, je ne sais pas si vous aimez le Tour de France, mais à la première étape cette année, on a eu le petit Van den Broek qui a emmené Romain Bardet à la victoire. Ce jour-là, il était meilleur. C'est son premier Tour de France. Il aurait pu gagner une victoire de gamin sur son premier Tour de France. Eh bien non, on fait gagner le leader, on donne le maillot jaune au leader. Et voilà, dans ce sens-là, c'est le sport. Dans l'autre sens, ça me gêne un peu plus.
Ouais. Paul, qu'est-ce que tu penses donc de cette attitude de Lando Norris, bon, qui a attendu le dernier moment ? C'est toujours difficile quand on demande à un pilote de laisser une victoire.
Non, mais c'est sûr, mais je mettrai un petit bémol par rapport aux propos que vous teniez, Louis et Jean-Luc, parce que c'est vrai que Lando Norris avait encore une fois fait la pole position, la troisième de sa carrière. Encore une fois, il ne transforme pas l'essai, comme on dit en rugby. Et c'est vrai que Oscar Piastri a fait le meilleur départ. Si Lando Norris ne s'était pas un petit peu manqué sur ce départ, on ne serait pas en train de débattre de qui a laissé passer qui. Et Lando Norris, effectivement, aurait remporté son deuxième Grand Prix de Formule 1 après celui de Miami. Pour moi, il était très très bon encore une fois ce week-end, mais il n'était pas parfait et c'est donc Oscar Piastri qui logiquement remporte sa première victoire. Voilà le petit bémol sur le Norris, c'est quand même malgré
il
tout
a ouvert une porte qu'il aurait pu ne pas ouvrir.
C'est ça.
Et puis moi je dirais, j'espère, bon les deux garçons ont l'air vraiment sains et d'avoir de bonnes relations entre eux, jusque là, j'ose dire, et j'espère que ça ne laissera pas de traces.
Parce non,
que ça,
mais je pense que la réaction de fin de Lando Norris, c'est peut-être aussi là-dedans, dans ce...
Oui.
Voilà,
comme il l'a dit, la pression à l'arrivée.
J'avais pas entendu le son que tu nous as fait écouter, j'avais juste entendu celui à la sortie du podium où il dit vraiment rien.
Oui.
Et là, il en dit un peu plus et on comprend que voilà, il a réfléchi un peu, il lui a peut-être fallu ces fameux quelques tours, Paul, tu vois, qu'il a mis du temps à le faire, pour se dire, ah ouais, c'est vrai que bon, peut-être, puis ouais, c'est vrai qu'à la longue, on va quand même être coéquipier encore quelques années. On a la meilleure voiture du plateau, je suis leader d'équipe, c'est peut-être pas le moment de perdre mon coéquipier finalement. Donc c'est peut-être un coup de billard à deux, trois bandes.
Et c'est difficile quand on a à peine 24 ans, hein, qu'on pouvait remporter sa deuxième, deuxième victoire après Miami. Mmh. Alors par parenthèse, je vais mettre un gros pavé dans le jardin de notre ami Bin Sulayem, parce qu'il me fait vraiment rigoler. Lui, il est toujours là quand il faut pas et pas là quand il faudrait. Il vient voir Norris à l'arrivée, il essaie de lui taper sur les en disant salut mon pote, l'autre bah, il est en train d'avaler la pilule qui est quand même difficile et Bin Sulayem ne comprend rien donc il s'éloigne comme un piteux. Bon, ça y est, je l'ai fait, voilà, ça me fait plaisir. Alors, au championnat, parce que c'est quand même important, puis on va passer à d'autres équipes parce que le temps file, messieurs, on est tous passionnés donc on a plein de choses à dire. Donc, Red Bull est toujours devant avec 389 points, mais McLaren donc arrache la deuxième place que j'évoquais avec 338 points à la Scuderia Ferrari qui reste un peu scotché là, 322. On voit qu'on pédale un petit peu hein, du côté de la Scuderia. Et puis Mercedes se rapproche doucement, 241. Bon, après, on a Aston très loin. Et puis, je ne vous parle pas des autres. Donc, voilà, il faut dire quand même que là, McLaren, et on le pressentait, est l'écurie dominante, Louis, ça te va, ça ?
Ah oui, oui, bah là, je crois que c'est... Là, on se posait la question au début de championnat. Est-ce qu'ils sont encore un peu derrière Red Bull au niveau de la voiture et à égalité de... Je crois que là, ça y est, ils ont même peut-être... Ils sont passés devant et ils ont deux pilotes. Contrairement à Red Bull. Donc ça peut être intéressant. Ça
Paul,
peut être très intéressant.
Un mot là-dessus, sur l'avenir de McLaren. Tu penses qu'ils vont rattraper Red Bull avant la fin ?
Ah bah, je pense que ça se jouera peut-être, en tout cas on l'espère, hein, lors du dernier Grand Prix de la saison, le 8 décembre à Abu Dhabi. Mais lorsqu'on évoque le classement rapidement des constructeurs, on pense aussi quand même au championnat où Lando Norris est deuxième. Il le disait à l'arrivée, en tout cas le diffuseur lui posait la question, et si à la fin il vous manquait 6 ou 7 points pour être champion du monde face à Max Verstappen. Là aussi c'était un sourire jaune hein, de la part du pilote britannique, car c'est vrai qu'en terminant deuxième, il perd quand même de précieux points au championnat. Alors certes, le triple champion du monde a quand même un boulevard devant lui et sans un accrochage, on en reparlera avec Lewis Hamilton, il serait certainement monté sur le podium. Mais en tout cas, comptablement parlant, même si c'est une bonne opération pour McLaren au classement du championnat des constructeurs, au niveau des pilotes, là encore, la pilule est peut-être un petit peu dure à avaler pour le pilote britannique.
C'est évident. Allez, on va refermer le chapitre papaya, ça vous va, puisque c'est ainsi qu'on nomme cette équipe à cause de sa couleur. Et on va mettre une petite pierre aussi à Andrea Stella, hein, le team manager, qui a essayé de nous justifier. Ça. Alors, je ne sais pas si vous avez lu sa déclaration, mais ça vaut le coup. Si vous avez envie de rigoler, allez-y, parce que les raisons qu'il avance pour expliquer la stratégie de McLaren, c'est quand même à mourir de rire. On va
c'est
progresser.
Lunaire,
oui, on va progresser, c'est certain. Allez, on va parler des autres, parce que c'est quand même intéressant d'avoir des adversaires. Alors, l'opposition est donc venue de Verstappen, ce que j'expliquais, déjà en qualif, hein, 44 millième, c'est pas beaucoup. Et puis, Paul, on l'a vu, Verstappen agressif comme toujours, notamment dans ce premier freinage. Alors, premier freinage à trois de front, bon, il sort de la piste, mais il n'avait pas trop le choix, il n'y avait plus vraiment de place sur la piste.
Oui, effectivement, plus de place et même s'il ressort deuxième derrière Piastri, hein, il a rendu effectivement la seconde position à Lando Norris car eh bien, l'action était sous enquête et son ingénieur lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il laisse passer Lando Norris, ce qu'il a fait. Mais c'est vrai qu'après, sur le rythme de course, tu le précisais Jean-Luc, une très très belle qualification quand même. Les trois premiers pilotes étaient vraiment dans un mouchoir de poche et c'est vrai que Max Verstappen, qui n'a plus la meilleure monoplace, reste quand même certainement le meilleur des pilotes de Formule 1 et encore une fois avec une stratégie un petit peu différente, même si là encore une fois Red Bull s'est un petit peu planté quand même sur ce circuit. Il l'a dit à de nombreuses reprises à la radio, c'était même un petit peu limite les échanges hein, en fin de course entre son ingénieur et Max Verstappen. Il a encore essayé de tirer son épingle du jeu, malheureusement pour lui cette fois-ci, peut-être un petit peu trop pressé, peut-être un petit peu trop gourmand en venant faire l'intérieur à Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton, eh bien, au bout de sa trajectoire, eh bien,
eh bien tourne à droite et percute l'arrière de la monoplace de Max Verstappen. Beaucoup de chance pour le Néerlandais quand même, qui aurait pu casser la suspension arrière. Ah oui. Finalement, il finit par repartir et il finit cinquième derrière Charles Leclerc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière les McLaren, la Red Bull est quand même encore là avec ce diable de Verstappen. Car vous le précisiez là aussi, messieurs, vous avez raison, hein, il n'y a plus qu'un seul pilote dans cette équipe, tant Sergio Perez est complètement à côté de ses pompes aujourd'hui. On peut même se demander, on demandera à Louis s'il finira la saison dans le baquet de la Red Bull. Ah. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il reste quand même un pilote extraordinaire. Et même s'il n'a plus la meilleure des monoplaces, il est encore placé. Alors, cinquième aujourd'hui, enfin hier, sur le tourniquet du Hungaroring, ce n'était pas le meilleur résultat pour Verstappen. Mais on le retrouvera, à n'en pas douter, dans les prochaines semaines. Et pourquoi pas, dès le prochain Grand Prix à Spa-Francorchamps, à la bagarre pour aller titiller, encore une fois, je pense, les McLaren.
Et oui, puis à part cette petite erreur, c'est un incident de course. Hein. Évidemment, les deux pilotes vont se rejeter la responsabilité. Enfin, on les connaît tous les deux, ils ont du caractère. Moi, ce que j'aime bien souligner, c'est le temps en course, le meilleur temps en course. Et Verstappen a le deuxième en 1:20.908 au 51e tour, donc à pratiquement 20 tours de l'arrivée. Et vous le savez, le tout meilleur, bien sûr, a été arraché par Russell, 1:20.305. Ils ne sont que deux pilotes en dessous des 1:21. Mm-hmm. Donc ça démontre effectivement, Louis, que bah, il a toujours la niaque, c'est peu de le dire, Verstappen.
Ah oui,
hein.
Ah oui, et puis comme disait Paul, il suffit d'écouter sa radio hier. Lui, troisième, quatrième, cinquième, il ne veut pas, il ne sait pas ce que c'est, ça ne l'intéresse pas une seconde, mais même deuxième d'ailleurs, je commençais à trois, mais même deuxième, c'est hors de question. Mais juste pour revenir sur l'incident de course, qui pour moi, ouais, c'est clair, c'est un incident de course, je veux dire, bon... on est sur un dive bomb un peu trop ambitieux.
Bah, ils veulent tous les deux être au même endroit au même moment, ça passe pas.
Et surtout, on sait parfois que en Formule 1, ce genre de choses, il faut que les pilotes aient envie que ça se passe bien aussi. Et on sait que ces deux-là, il n'y a plus de cadeaux possibles entre eux. Et donc, Hamilton n'a rien fait pour que ça se passe mieux. Mais j'ai pas envie de lui mettre la faute dessus, dans le sens où là, clairement, c'était un dive bomb. Mais pour revenir au premier virage, là où ils sont trois de front, moi, ce qui me gêne dans l'attitude de Verstappen, et encore une fois, on aurait tous fait pareil derrière le volant, c'est qu'il ne freine pas une seconde parce qu'il y a de l'asphalte et qu'il le sait. Si derrière la limite de piste, tu as herbe ou gravier, il est obligé de freiner. Et parce que ce n'est pas lui qui est bien placé, c'est les deux McLaren qui sont mieux. Et donc, bah, je trouve que derrière, il dit « Ouais, mais on ne peut pas, machin, l'autre, il me fout dehors. » Oui, on est à un départ de Grand Prix et là, bah, il s'avère que c'est... ça aurait été à toi de freiner s'il y avait eu du gravier, quoi. Et je trouve ça dommage finalement qu'il puisse s'en tirer un peu comme ça, flat out, et ressortir deuxième. Je sais pas, tu t'as l'air de...
Oui, mais parce que tu me remémores une anecdote, vous n'étiez pas né évidemment messieurs, mais ouais, oui, et j'avais le plaisir d'être sur les Grands Prix de Formule 1 à ce moment-là. Ayrton Senna repérait toujours à pied, à l'époque c'était un des seuls, vraiment tous les circuits, pour voir où il pouvait sortir.
Voilà.
Et je crois que c'est en Australie, et je crois que c'est Adélaïde, tu vois, bon, là c'est vraiment de mémoire, et bien il avait repéré qu'à un endroit, c'est un circuit urbain, hein. Et il avait la possibilité d'élargir son freinage s'il se ratait, et c'est ce qu'il avait fait.
Ouais,
donc
voilà.
À l'époque, évidemment, la direction de course était beaucoup moins scrupuleuse sur les... tu vois, on n'avait pas tous ces déclassements et toutes ces pénalités.
Il n'y avait pas de cellules sous les voitures, de caméras, de trucs. Ouais.
Tu sortais une roue de la piste, t'étais dans le mur
et
ou dans
puis
le
voilà, rail, ouais, déjà, c'était
ça aidait,
un peu
mais
plus...
là, il pouvait le faire. Donc moi, ce que, ouais, ce que tu dis, c'est
non, marrant. Mais c'est ça. Après, Hamilton était aussi le spécialiste de ça, de savoir où...
Il ne laisse aucun détail.
Non, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je blâme pas du tout le pilote, dans le sens où un pilote, on lui demande d'aller le plus vite possible, il ira le plus vite possible. Mais c'est peut-être plus soit dans les règlements ou soit dans l'aménagement du circuit. Là, je sais pas, vous êtes peut-être pas d'accord, mais pour moi, s'il y en a un des trois qui doit freiner, parce que clairement il passe pas à trois, c'est à Verstappen. Mmh. Voilà.
Ton opinion, Paul ?
Ouais, je partage l'opinion de Louis, mais pour revenir sur le cas de Max Verstappen, en tout cas, c'est vrai qu'avec son statut, on va dire, d'empereur, de roi soleil chez Red Bull, c'est la première fois, en tout cas, via la radio, que l'on a entendu le triple champion du monde se faire tancer quand même, par son ingénieur, car il a râlé à de nombreuses reprises, en disant même à une quinzaine de tours de l'arrivée, laissez-moi faire le boulot après cette mauvaise stratégie sur l'ensemble du Grand Prix. Et pour une fois, en tout cas, il s'est fait reprendre. Alors, on ne sait pas comment Red Bull va terminer la saison, s'ils perdront leur titre de champion du monde des constructeurs. Mais encore une fois, Max Verstappen a un boulevard devant lui. Est-ce qu'il y aura un changement de coéquipier ? En tout cas, on sent quand même que ça va nettement moins bien. C'est vrai qu'on, Louis le disait, on le dit depuis maintenant pas mal de temps dans le paddock F1 sur AMC. Red Bull va moins bien, McLaren va très très bien. Et on a la preuve que hier, l'écurie champion du monde a commencé vraiment à vaciller sur le Hungaroring.
Allez, on va justement écouter Verstappen, parce que rien ni personne mieux que lui peut nous expliquer ce qu'il y avait dans sa tête au micro de Canal.
On a day where
C'est un jour où je ne suis pas le plus rapide. Je pense que nous aurions dû faire un meilleur travail sur la stratégie. Le premier, d'accord, je n'étais pas content d'être undercut, mais cela peut arriver. Vous vous faites surprendre. Ensuite, je suis resté bloqué très longtemps. J'ai perdu beaucoup de temps en essayant de me battre avec Lewis. Ensuite, il m'a sorti de nouveau. Nous aurions dû y penser un peu plus avant de prendre une décision.
Bon, il les a bien, bien taclés quand même. Alors, on va en profiter, puisqu'on est avec Red Bull, pour dire un mot ou plus, si vous voulez, sur Sergio Pérez. Louis, bon, là, on va dire, bon, il rate ses qualifs, j'allais dire comme d'habitude, hein, c'est absolument lamentable. Là, il avait, avant ce Grand Prix, hein, il avait pris 15 points en 6 Grands Prix, et c'était la quatrième élimination en Q1 en 6 Grands Prix. Ça fait mal. Bon, il part 16, il termine donc 7. Bon, on va dire, il a fait le boulot.
Oui, ouais, ouais, mais c'est. Enfin, il a toujours été plus du dimanche que du samedi, mais c'est vrai que maintenant il est tellement loin de samedi que bah même avec une course propre ou quoi, ça... septième, enfin c'est pas, enfin c'est dans un ouais, championnat où McLaren revient comme une balle comme ça, où Mercedes est là, on parlera peut-être de Ferrari vite fait qui eux à l'inverse sont plus du tout là malheureusement, mais ouais, dans le contexte actuel ils ont besoin de deux pilotes et. Et bah pour moi, j'ai pas de boule de cristal, mais là, il faut y aller parce que là, si McLaren finit champion constructeur, c'est Horner et Marco qui auront perdu le championnat constructeur parce qu'il y a un moment, c'est de leur ressort de le mettre dehors.
Ouais, Louis, mais évidemment, mais Sergio Pérez, on le sait, amène des dollars et c'est bien pour cette raison. Je crois qu'aujourd'hui encore, le Mexicain est dans le baquet de la deuxième Red Bull.
Ouais. Vous l'attaquez durement, je vais le défendre. Il est vice-champion du monde en titre.
Dans une année où ils avaient deux fusées à côté de d'autres qui avaient des voitures.
Bien sûr.
Maintenant que tout le monde a une voiture, il n'y arrive plus.
Non, puis son début de saison n'était pas trop pourri non plus. Non. Le résultat, c'est à un moment, ouais. il a raté
Miami,
une marche.
Comme chaque année, Miami, c'est... Ouais. Ouais. Je sais pas ce que tu lui fais là-bas, mais...
Mais Jean-Luc, tu penses vraiment que Max Verstappen doit changer de coéquipier d'ici à la fin de la saison, ton sentiment ?
Alors, si j'étais à la place de Christian Horner, je crois que oui. Alors, je ne sais même pas ce que je vais énoncer est possible, mais je le mettrai en repos technique après le break. À la rentrée, j'essaierai... Alors, la question, c'est là, qui à sa place. Est-ce qu'on fait monter Ricciardo ? Est-ce qu'on fait Liam Lawson ? Est-ce qu'on fait... Enfin, il y a plein de positions. Ou Tsunoda ?
Ouais, moi, j'ai un
peu borduré.
Ouais, mais... c'est ça. Pourquoi est-il si borduré ? Enfin, aujourd'hui, il est quand même dans le giron Red Bull, celui qui est le plus logiquement le plus fiable ces derniers temps.
Bon, écoute, donc je termine ma phrase. Je le mettrai peut-être au repos pour 2-3 Grands Prix et puis je le ferai revenir un petit peu plus tard dans la saison. Mais bon, c'est une sanction, une pénalité en disant maintenant tu te rassembles et tu retrouves la forme et surtout la vitesse parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Bon, et quand on sait qu'il a re-signé un contrat de 2 ans également,
et que Piastri est le 7e vainqueur cette année et que lui n'a toujours pas gagné alors qu'il est censé avoir la meilleure voiture.
Allez, on change d'écurie, on va parler des rouges, ça vous va ?
Aïe.
Paul, alors, le Cavallino rampante, est-ce qu'il est toujours rampante ? Est-ce qu'il, contrairement à l'analogie, ne veut pas dire qu'il rampe ? C'est au contraire le cheval dressé sur ses jambes arrière, comme on dit.
Ouais, alors, au vu des qualifications, de voir Charles Leclerc terminer au pied du podium, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le Monégasque à l'arrivée de ce Grand Prix, même s'il était encore un petit peu déçu. Et il évoquait d'ailleurs le manque de performance de sa Ferrari, ce qui veut dire que chez les Rouges, on n'y arrive pas, malgré l'apport de Fred Vasseur, malgré deux pilotes talentueux comme Carlos Sainz et Charles Leclerc, la Ferrari est en net recul. On le disait depuis sa victoire à Monaco dans des conditions, on le sait, dans un circuit en ville bien particulière. La Ferrari est aujourd'hui la troisième, voire la quatrième force du plateau parce que Russell a gagné, Hamilton a gagné. Hamilton termine encore devant Charles Leclerc et devant Carlos Sainz, ce qui veut dire que, à mes yeux, la Ferrari ne progresse pas. Et d'ailleurs, encore une fois, Charles Leclerc l'a dit, il n'y a pas d'évolution attendue dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois. Donc, ce qui veut dire que la Scuderia Ferrari va devoir se traîner évidemment derrière McLaren, derrière Red Bull et derrière Mercedes. Les Ferrari ont perdu la place de second au classement général des constructeurs. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a encore une fois pas mal de soucis dans la maison rouge. Et je vois pas, enfin, je sais pas, Louis, ce que tu en penses, mais je vois pas comment Ferrari pourrait redresser la barre. Il reste encore beaucoup, beaucoup de courses évidemment d'ici à la fin du championnat. Mais au vu des performances actuelles, j'ai du mal à penser que les rouges vont redresser la barre.
Moi, je te rejoins à 200% par rapport. Là, ils viennent de perdre la deuxième place et ils la reverront pas. C'est là, par rapport aux dynamiques. Jean-Luc, tu le disais tout à l'heure, Leclerc. Il finit à une place qui est sixième, c'est ça hein.
Non,
quatrième.
Quatre, puisque avec l'accident de Verstappen, il passe devant. Mais moi, sur son résultat, en fait, le truc qui m'intéresse, c'est 20 secondes de retard sur le vainqueur. Parce que en début de saison, ils étaient justement revenus à moins de 10 secondes, même parfois même mieux que ça. Et là, vraiment, de revenir à 20 secondes, vraiment comme il y a 18 mois presque. Là, ça, c'est dur. Et si Paul, tu me dis qu'il n'y a aucune évolution à venir, ou alors bon, c'est peut-être une vasserette, c'est déjà dans l'année d'après, peut-être.
Enfin, il reste quand même 11 grands prix.
Il nous en reste 11, donc c'est long, mais moi je suis assez inquiet pour eux. On sent que Charles n'est pas trop épanoui. On a un Sainz qui est à moitié parti, mais pas vraiment parce qu'il sait pas où il part. Et une voiture c'est pas elle qui avance moins vite, c'est vraiment les trois de devant qui progressent, mais eux ne progressent plus, quoi.
C'est ça. Et puis quand on regarde les résultats au classement constructeur, on voit bien qu'ils ont raté la marche après Monaco, hein, c'est très clair. Le Canada a été désastreux, on rappelle qu'aucun des deux ne termine. Et après, en tant qu'écurie, on totalise 18, 21, 11, 20 points. C'est très modeste.
Ouais, donc, c'est assez faible.
Comme tu l'évoquais, Paul, je pense que c'est la quatrième équipe du plateau. Les pilotes font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont plus l'étincelle, ils n'ont plus la foi. Là, effectivement, ils gèrent ce qu'ils peuvent. On verra à Spa. Puis après, il y aura un break de 4 semaines. J'espère qu'il va être mis à profit une nouvelle fois par la Scuderia pour redresser la barre et se rapprocher des trois plus rapides. On continue à dérouler, non pas du câble, mais le classement. Alors, on a sauvé les meubles, je le disais, du côté de Pérez et de Russell. Donc, on a parlé d'Hamilton, mais on n'a pas parlé de Russell, c'était un peu volontaire. Alors là, c'est étonnant, parce que ce jeune pilote, qui a été si brillant, qui gagne un Grand Prix, qui fait la pole, et là, on le retrouve nulle part, Paul. Alors, moitié de sa faute, moitié de la faute de l'écurie, d'après ce qu'il a dit en qualif.
Ouais, c'est ça, ouais, des qualifications manquées. Alors, où se situe la vérité, certainement au milieu. Mais c'est vrai que George Russell est un petit peu sur courant alternatif quand même, depuis maintenant pas mal de semaines. On connaît sa pointe de vitesse, on sait maintenant qu'il sait gagner des Grands Prix. Il l'a fait dans cette belle écurie Mercedes. Mais c'est vrai qu'on a quand même la sensation, et pourtant, on disait, messieurs, rappelez-vous le contraire, en début de saison, que Russell avait pris le pas sur Lewis Hamilton. Eh bien, on a l'impression que c'est maintenant l'inverse, que Lewis Hamilton a retrouvé du mordant. Alors évidemment, avec cette magnifique victoire chez lui à Silverstone, la 9e en Angleterre, mais là encore une fois un podium, alors que Russell, avec des qualifications manquées, termine loin, derrière Sergio Pérez. On peut se poser la question, non pas du degré de motivation de Sergio Pérez, mais de savoir s'il arrivera évidemment à retrouver cette performance, aussi bien en qualification qu'en course, pour devancer Lewis Hamilton, car c'est aujourd'hui le seul but de George Russell, prouver qu'il est aujourd'hui meilleur que Lewis Hamilton, puisque le Britannique, lui, partira chez Ferrari la saison prochaine. Donc ouais, je suis un petit peu mi-fig mi-raisin sur George Russell, un pilote que j'aime vraiment beaucoup, avec encore une fois une très très belle pointe de vitesse, mais peut-être est-il en train de passer à côté de certains grands prix. Et je pense que Toto Wolff lui aussi doit se poser quand même quelques questions au sujet de son pilote britannique.
Et puis normalement c'est son leader pour le moment. On attend l'arrivée du deuxième, dans le deuxième baquet, enfin le baquet d'Hamilton, je ne sais pas si c'est le deuxième. Alors on va lui laisser Spa quand même, parce que ça c'est le juge de paix, Louis. Moi c'est un circuit que j'adore, comme tous les pilotes. Spa et Suzuka, c'est quand même les plus beaux à tout niveau là, pour les monoplaces, pour les pilotes. Enfin, je pense qu'on va se régaler dès la semaine prochaine, messieurs, parce qu'il y aura un autre paddock RMC dès la semaine prochaine. Donc bon, un mot peut-être sur Russell, tu veux rajouter quelque chose?
Non, pas vraiment. J'ai toujours été persuadé que au top les deux, Hamilton est plus fort. C'est mon avis. Et peut-être que tout simplement Hamilton sort d'une longue période de blues et que là, ça, comme tu dis, ça l'a requinqué. J'ai pas trop d'avis sur George Russell. Je pense que dans 3 semaines, il fera une très bonne course et qu'on dira finalement, c'était pas si grave.
C'est très possible. Wait and see. Alors, on déroule toujours le classement et ensuite, justement, on a évoqué Yuki Tsunoda tout à l'heure rapidement. On va poursuivre avec toi, Louis. Alors, Tsunoda, je pense qu'il est vraiment mal coté. Et puis, je me rends compte d'ailleurs qu'on n'a pas écouté Charles Leclerc et c'est un petit peu dommage. C'est pas grave, on va l'envoyer maintenant parce qu'il avait des choses à dire. Il essayait d'être positif après la prestation de Ferrari. Donc, on va revenir, si vous le voulez bien, au micro de Canal, sur les déclarations de Charles Leclerc. C'est toujours intéressant de l'écouter.
C'était un petit peu plus positif que ce que je pensais, surtout avec la perfo comparée à la Red Bull. Je pense que McLaren, c'était plutôt comme on s'attendait. Malheureusement, ils étaient trop rapides aujourd'hui. Mais avec Red Bull et Mercedes, on était rapide. Après, on a, sur le dernier stint, on a voulu s'arrêter pour faire l'opposé de Max, ce qui, sur le papier, était une bonne idée. Malheureusement, je pense qu'on a un petit peu payé cette stratégie parce qu'après, je suis resté bloqué derrière Lewis avec les médiums au début où j'en avais un petit peu plus. Et après, j'ai dégradé un petit peu plus vers la fin. Mais bon, à la fin, une quatrième place, honnêtement, c'est plutôt résultat positif pour le team. Donc maintenant il va falloir qu'on centre, avance pas pour essayer de comprendre où est la perfo qui aujourd'hui n'est pas là.
Bon, ça va, il n'a pas dit le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure.
Bon, on est raccord.
On se rattrape comme on peut.
Allez, je reviens. Alors, je pourrais revenir en deuxième semaine, c'est ça, messieurs, après ça, Francorchamps.
Tu as parfaitement le droit. Alors, on parlait du petit japonais dans tous les sens du terme, parce que c'est vraiment le bois-plume de la Formule 1, Yuki Tsunoda. Louis, je ne pars pas le fil de mon idée, même si j'avais un peu zappé Charles. Est-ce que Yuki mériterait, allez, on y va carrément, le baquet de Perez, de ton point de vue, parce qu'il est dans les points. Hein.
Oui, autant il y a un an, deux ans sûr, il y a un an, je t'aurais dit ouais, je sais pas et tout. Autant sur les 18 derniers mois, je trouve qu'il a pris en maturité et ça se concrétise par une régularité. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, il commence à faire partie de ces pilotes qui maximisent. Bon, là, il en a pris une belle ce week-end, mais bon, ça arrive à d'autres.
Ça, quoi, pilote de course.
Exactement. Hein, ouais. Mais sinon, il est quand même très souvent devant Ricardo. L'année dernière, on ne parle même pas avec De Vries, et voilà, il l'a éclaté. Je trouve que, donc, comme je disais, il a mûri, il est régulier. Et donc, en fait, je m'interroge même un peu de comment on peut ne jamais entendre son nom dans les rumeurs, alors que ça me paraît, enfin, il est du giron Red Bull, il était quand même en F2 déjà avec eux, machin. Donc j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que c'est le fait d'avoir quitté Honda qui fait que on avait mis un japonais par diplomatie et que maintenant, à part ton passeport, tu nous intéressais pas vraiment. Mais force est de constater aujourd'hui, enfin moi je suis Horner ou Marco, je regarde dans mon giron. Ça me paraît tellement évident que je comprends pas. Je me dis, mais il y a un truc qu'on sait pas. Voilà.
Alors, je vais avancer une petite explication avant de donner la parole à Paul. Moi, je vais parler volontairement et de manière provocatrice de l'effet Netflix, parce qu'il est lisse, le petit japonais. Il a pas d'histoire. Je veux dire, il a pas un look extravagant. Il a pas des déclarations scandaleuses. Il fait son boulot. Il se tait. Enfin, à la japonaise, il est humble, il est modeste, il est poli. Est-ce que, Paul, maintenant, ce sont des handicaps en Formule 1?
Ouais, non mais Jean-Luc, évidemment que c'est un handicap pour Yuki Tsunoda, mais lorsque l'on parle du deuxième baquet chez Red Bull, c'est tout simplement pour seconder Max Verstappen, qui est le leader de cette équipe, qui sera certainement quadruple champion du monde à la fin de la saison. On a donc besoin d'un gars qui rapporte des points, comme l'a fait Sergio Perez, tu le rappelais, qui a quand même été troisième du championnat du monde en 2021, vice-champion du monde, et qui rapportait des points à l'écurie Red Bull. Et aujourd'hui, Max Verstappen est tout seul, il l'a dit d'ailleurs à l'issue de ce Grand Prix, il va falloir qu'on trouve des solutions car aujourd'hui je me bats quand même un petit peu tout seul. Donc je pense que le pilote Yuki Tsunoda remplirait toutes les cases pour prendre le baquet de Sergio Perez. Je n'ai rien à rajouter de plus, messieurs.
Bon, on va croiser les doigts pour le petit japonais en espérant qu'effectivement il trouvera la faille. On va passer à Aston Martin. Alors les joyeux duettistes qui s'étaient qualifiés l'un derrière l'autre, je ne dis pas de bêtises,
dixième,
c'est bien ça,
deux
dixièmes, ouais. Exactement, septième et huitième à l'avantage de Fernando Alonso. Et puis vous le savez, je fais toujours exprès de défendre Stroll, c'est lui qui prend le point. Et oui, c'est lui qui est dixième, c'est lui qui finit de peu, mais c'est lui qui termine juste devant Alonso pour 4 secondes, pour être très précis. Mais bon, il mérite son baquet, parce qu'on a quand même un double champion du monde dont personne ne remettra la compétitivité et la hargne à 42 balais, bientôt 43 en lice ou en cause. Il y a un point à prendre, il est là. Alors, mais du côté d'Aston, alors pour élargir un petit peu, là il faut faire le boulot maintenant.
Aston, on est sur les mêmes dynamiques qu'Alpine, quoi. C'est-à-dire que ça descend.
Tu déflores le dernier sujet que vous avez.
Non, je dis rien de plus, mais juste voilà, c'est les écuries. De toute façon, c'est simple la vie, t'as que deux dynamiques, soit tu montes, soit tu descends. Bon, eux, ils font partie de ceux qui descendent et tu vois vraiment pas comment ça peut s'inverser. Pour revenir sur Stroll, il a toujours été à peu près au niveau, jamais très loin. Et là, il fait, il est assez propre en ce moment, il fait le taf.
Il fait le taf.
Et moi, c'est vrai que je pense que c'est pas le meilleur des pilotes, mais en revanche, quand on le critique et qu'on lui met l'étiquette de fils à papa, pilote payant, je pense que je l'avais déjà dit à ce micro, il y a eu des pilotes payants 10 fois plus scandaleux que Lance Stroll.
Oui, il y avait de la marge.
Ouais, je me demande
même si on n'aurait pas encore aujourd'hui.
Oui. Donc, c'est clair. Donc, moi, c'est pas le défendre, mais en tout cas, je prendrai toujours sa défense là-dessus parce que il est pas pire qu'un autre, loin de là.
Ton avis, Paul, justement, en comparaison avec un garçon qui a la même monoplace que lui, hein, mais qui compte 32 victoires et 22 pôles quand même.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai envie de dresser rapidement un parallèle avec le cas des pilotes Mercedes. On évoquait Russell qui était devant Hamilton et puis Hamilton quand même qui a repris un petit peu le face au pilote, face à son coéquipier britannique. Et bien depuis quand même 3 ou 4 Grands Prix, on voit que Lance Stroll, qui était dominé par Fernando Alonso, puisqu'au classement quand même Alonso a 45 points, 24 seulement pour Lance Stroll, mais que depuis maintenant 3 ou 4 courses, Lance Stroll est au niveau, comme disait Louis, et il mérite son baquet. Il finit quand même devant Fernando Alonso, hein, ce qui n'est pas rien vu le palmarès et le pédigré du champion espagnol. Donc bien, c'est assez plaisant de voir que Lance Stroll aujourd'hui peut grappiller des points, même si encore une fois c'est vrai que l'écurie Aston Martin est en train de, non pas de couler, mais en tout cas de sombrer dans la deuxième partie du classement, quand on sait que l'année dernière quand même Fernando Alonso avait commencé sa saison avec quasiment 6 podiums, des deuxièmes et troisièmes places. On en est aujourd'hui, messieurs, très très loin.
On en est très loin. Alors, je vais vous épargner des commentaires sur Daniel Ricciardo, 12e. Sur les As, malheureusement pas très en forme. Là, Hülkenberg seulement 13e et Magnussen 15e. Sur les Williams, avec Albon 14e et Sargeant 17e, pour en arriver, et oui, à Alpine. Alors là, je ne sais plus quoi dire, donc je vais vous laisser parler.
Allez, je vais prendre la main rapidement avant de laisser Louis, parce que c'est un désastre aujourd'hui. Elles se sont complètement plantées en qualification. Enfin, les ingénieurs, d'ailleurs, Pierre Gasly l'a dit, hein, je ne sais pas comment on fait pour en arriver là, rester au stand alors que les conditions de piste s'asséchaient et les monoplaces sont ressorties. Les deux Alpines sont restées dans leur garage. Partir quand même en fond de grille avec Pierre Gasly qui a encore un problème hydraulique cette fois-ci. Enfin, ils accumulent les problèmes sur et en dehors de la piste. Et on voit mal comment cette écurie pourrait réagir. Alors, c'est vrai qu'on tenait ces propos-là en début de saison et que derrière, il y a eu quand même une petite embellie.
Une légère embellie
avec des pilotes et Ocon et Gasly qui ont terminé quand même pas mal de fois dans les points.
Rien, on va toujours les sortir du naufrage. Hein.
Sauf que l'écurie, quand même, aujourd'hui, est, en tout cas à mes yeux, est Louis complètement à côté de ses pompes.
Ouais, complètement. J'entendais chez nos confrères de Canal, Franck Montagny, dire qu'il y a peut-être eu tellement de changements qu'ils sont dans un moment où il y a des pertes de repères.
Ils ont engagé du monde aussi, on nous l'a dit. On a engagé
c'est
machin,
ça, donc il y a trois mois, on engageait ce qui se faisait de mieux sur le paddock. Et maintenant, donc il y a un moment, ça ne tient pas. On en est quand même arrivé à que Bruno Famin vienne publiquement dire « je tiens à m'excuser ». Quand en F1, on arrive à être aussi clair et cash, ça veut dire que l'erreur est colossale. Et moi, j'ai vu en replay les qualifs. Et je suis arrivé en retard en Q2 et j'entendais les commentateurs dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait, donc je suis revenu au début et j'ai assisté à la scène, je dis c'est pas possible, et je dis vous croyez dans une Red Bull, vous croyez que vous avez une quelconque marge,
c'est ça, ils ont calqué leur attitude sur celle de Verstappen
mais attendez les amis, et alors après il y a un élément de réponse qui a été amené un peu par Ocon, qui a été qu'ils avaient plus qu'un train de soft. Plus qu'un train de soft, c'est-à-dire qu'il y avait une erreur. Voilà, il y avait une erreur en amont, et comme tu le dis, et comme il l'a dit, il dit mais bon, ça sert à rien de rester avec un train de soft au garage. Le but, c'est de passer en Q2, quitte à mettre des médiums et faire 15e, ce sera toujours mieux que 19 et 20.
Que de faire ce qu'ils ont fait. Alors, il y avait eu, on va sauver le bon départ d'Esteban Ocon, Paul, sur la grille, où effectivement, il choisit une stratégie décalée. Hein, il prend un excellent départ, il gagne 4 places de mémoire.
Il remonte.
Donc, et pourtant, avec des médiums, hein, il n'a pas mis les softs.
Oui, alors on va se contenter de ça. Jean-Luc, c'est triste quand même pour l'écurie française, mais pour reprendre vos propos, en fait, c'est en haut de la pyramide qu'il y a aujourd'hui un problème chez Alpine. Hein. Les pilotes, on connaît leur pointe de vitesse. Jean-Luc, tu le rappelais, et Gasly et Ocon ont quand même déjà gagné un Grand Prix de Formule 1. Et ils sont capables de temps en temps d'aller arracher une Q3, mais en haut du château de cartes, eh bien, il y a des hommes qui ne gèrent pas, en tout cas qui gère mal. Et on l'a encore vu ce week-end sur cette terrible grand, séance de qualification.
Le costard est un peu grand. Tu sais, on disait souvent aussi en F1 que le problème dans une monoplace, quand tu ne veux pas être précis, tu dis le problème, c'est entre le moteur et le volant.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr.
Bon, bah là, il est ailleurs. Bon, voilà. Bah, on va se terminer en espérant un éclair, on ne sait jamais, à Spa-Francorchamps le week-end prochain. C'était un plaisir.
Bah oui, oui.
Débattre, comme toujours.
Merci Jean-Luc, merci Louis.
Merci pour ce
beau panneau. Merci à vous, les amis.
Vous n'hésitez pas à nous noter sur toutes les manières possibles et imaginables en nous mettant le maximum. C'est 12 sur 10 en général. Merci
c'est
à tous.
Ce qu'on mérite, en tout cas.
À la semaine prochaine.
Bye bye, messieurs, à la semaine prochaine.
Au Grand Prix de Belgique. Ciao.
Le paddock RMC.